À Lyon, vous écoutez Lyon Première.
Lyon Première.
Lyon Première, l'invité politique du samedi avec Lyon Positif, Frédéric Duval.
Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission L'Invité Politique, le samedi de 11h à midi, avec vous Andrea Cotarac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du groupe RN au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et vous êtes aussi un des porte-parole nationaux du RN. J'avais eu le plaisir de vous croiser d'ailleurs au moment des élections régionales il y a quelques années. Alors vous connaissez le principe de cette émission, on va parler un peu de sujets d'actualité, évidemment de votre mandat, de ce que vous pensez, de ce qui se passe aujourd'hui à la région, et évidemment aussi des européennes, du fait de votre rôle national aujourd'hui. On commence toujours avec une question d'actualité, et là ça tombe bien, il y en a plusieurs. La première, qui était plutôt, j'allais dire, consensuelle me semblait-il, est liée à la constitutionnalisation de l'IVG, dont tout le monde, ou presque tout le monde, a dit que ça semblait quelque chose d'important, d'historique, d'unique, que la France était pionnière. J'ai le souvenir d'avoir vu à un moment, peut-être des changements de position, de Marine Le Pen notamment, et d'avoir cru comprendre que c'était peut-être pas la peine parce que ça servait à rien. Quelle est exactement votre position sur le sujet ?
Écoutez, on a souvent dit que la constitutionnalisation de l'IVG était unique et que la France était la première, c'est pas vrai. Il y a un pays qui s'appelait la Yougoslavie qui avait déjà inscrit l'IVG dans sa constitution de 1974. Maintenant, pourquoi Marine Le Pen dit que c'est inutile ? Parce que aucun parti aujourd'hui, absolument aucun, ne remet en cause l'IVG. Absolument aucun. Donc le constitutionnaliser, ça nous paraissait pas très utile. Il n'en reste pas moins que nous avons voté pour cette constitutionnalisation.
Est-ce que c'est pas utile aussi parfois à un moment d'avoir comme ça des moments de consensus sur certains gros sujets pour montrer que les hommes et les femmes politiques peuvent aussi se parler, s'entendre sur des sujets de société ?
Ah mais bien sûr, et d'ailleurs le RN vote tous les textes, y compris des textes de gauche ou de droite, à la condition que ça aille vers l'intérêt général. Donc nous sommes absolument pas sectaires, nous laissons le sectarisme à d'autres. Effectivement, nous avons besoin de nous rassembler, puisque le pays sous Emmanuel Macron est absolument fracturé, territorialement, socialement, ethniquement, au niveau de nos valeurs. Donc effectivement, il faut se rassembler. Peut-être eût été utile qu'on se rassemble sur quelque chose de concret qui change la vie des gens.
Alors, sans vouloir être l'avocat du diable, mais c'était peut-être parce que j'ai entendu aussi ce type d'argument. Alors, la constitutionnalisation, c'est très fort, mais c'est vrai, on sait aussi que lorsque parfois il y a un cadre précis, légal, réglementaire, ça permet aux gens de s'y référer et du coup de pouvoir s'exprimer peut-être plus facilement que si c'est flou et qu'ils ont l'impression que c'est pas un droit qui leur est validé.
Non, mais offrir à l'IVG au droit... À l'IVG dans la Constitution, c'est une protection et c'est la norme suprême. La valeur juridique de la Constitution, c'est la norme suprême qu'un peuple libre se donne, comme disait Jean-Jacques Rousseau. Maintenant, quand je parle de concret, je pense que plutôt que d'inscrire ce droit dans la Constitution, le gouvernement devrait plutôt permettre aux jeunes filles d'avoir accès à l'IVG. Or, on a vu ces dernières décennies, y compris sous le Parti Socialiste, puis sous Emmanuel Macron, qu'on a eu des fermetures de maternité, qu'on a eu 40 000 lits d'hospitalisation qui ont été supprimés ces 10 dernières années. Pareil pour l'accès à l'IVG. Donc finalement, inscrire un droit, c'est un symbole et c'est important. Mais les Français, je pense, demandent du concret, notamment dans le renforcement des services publics.
Alors, autre sujet dans une actualité très très récente, il y a quelques jours... Hier ou avant-hier exactement, dans un amphithéâtre de Sciences Po, il y a eu une manifestation, je ne sais pas exactement comment on peut l'appeler, en tout cas des personnes se référant à ce qui se passait en ce moment entre Israël et la Palestine, qui ont occupé un amphithéâtre, refusé des étudiants sous prétexte qu'ils étaient juifs, rebaptisé un amphi en l'appelant Amphi Gaza. Le gouvernement a décidé de porter plainte, toute la classe politique s'empare de ce sujet. Quelle est votre position à cet égard ?
Mais écoutez, je pense qu'il n'y a pas de position à avoir. L'antisémitisme est un délit dans notre pays. Et ces gens-là doivent être sanctionnés. On ne trie pas les gens en fonction de leurs origines ethniques, en fonction de leur religion. C'est banni, c'est interdit dans la République. Donc ces gens-là doivent être punis. Maintenant, je pense qu'il faut avoir une réflexion sur ces mouvements d'extrême gauche qui, à l'université, empêchent la liberté d'expression. Jordan Bardella a été interdit à Rennes notamment par ses antifas. On voit aujourd'hui qu'il est de plus en plus compliqué de mener et d'organiser des débats d'idées au sein de l'université. Je pense que c'est extrêmement dangereux et que le wokisme est en train de détruire tout ce qui fait nos valeurs, notamment la liberté d'expression.
Alors justement, j'allais y venir parce que j'allais vous demander si c'était ça que vous appeliez ou définissiez comme le wokisme. Et on a beau en entendre beaucoup parler, c'est un mot qui reste assez étrange, ou du moins les gens ont des définitions différentes. Pour vous, c'est quoi le wokisme et pourquoi, selon vous, il est dangereux pour notre modèle de société ?
Le wokisme, c'est établir un rapport de force. Constamment, il y a des opprimés et des oppresseurs. L'homme blanc oppresse l'homme noir. L'homme hétérosexuel est censé opprimer l'homosexuel. Et bref, c'est dans toutes les catégories que ce wokisme, donc c'est une théorie qui nous vient des États-Unis, établit à chaque fois dans tous les domaines de la société ce clivage oppresseur-oppressé. Pourquoi est-ce que nous pensons que c'est une catastrophe ? Parce que vous l'avez dit vous-même. Parfois, il faut savoir se rassembler. Et dans notre pays, la Constitution, notamment pendant la République, et notamment sous la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la République différencie les hommes selon deux choses. Le talent et la vertu. Voilà. Talent et vertu. Ça, c'est au sein de la République française, on ne différencie les gens que par leur talent ou leur vertu. Donc, de couleur, pas d'orientation sexuelle. Les wokistes sont des destructeurs, je crois.
Alors, en même temps, si j'essaie de poursuivre un peu cet échange, vous évoquiez le fait que la société, selon vous, a été fracturée par Emmanuel Macron. Dans le wokisme, il y a aussi peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la défense des minorités. Et à un moment, est-ce qu'il n'est pas aussi entendable qu'on puisse aussi s'intéresser à ce qui s'est passé en tant qu'il y a des gens, y compris actuellement, qui sont dans des minorités et qu'on peut peut-être aider ou mieux accompagner et d'abord peut-être les reconnaître. C'est pas aussi un peu ça ?
Bien sûr qu'il y a des minorités et si elles souffrent d'une quelconque discrimination, il faut bien sûr agir, mais c'est toute la nation qui agit. C'est pas les noirs contre les blancs, c'est pas des réunions comme le font des syndicats de gauche comme l'UNEF, des réunions qui sont interdites aux blancs. C'est pas ça la République. La République, je le répète, elle ne différencie les gens que selon leur talent et leur vertu, ni plus ni moins.
Alors une actualité un peu plus locale, mais qui en même temps a des résonances, j'allais dire peut-être nationales ou en tout cas politiques. On a appris, pareil, il y a deux jours, qu'un certain nombre peut-être d'auditions et de perquisitions avaient lieu à la mairie de Lyon, dans l'entourage des collaborateurs de Grégory Doucet. On ne sait pas exactement de quoi il retourne, mais c'est une plainte qui avait été déposée à un moment, je crois, par les LR à l'époque. Ça pose des questions. À la région, il y a eu aussi un sujet avec peut-être des emplois fictifs présumés. Au Rassemblement National, il y a eu des questions et des débats, je crois, autour d'un certain nombre d'assistants parlementaires européens. Ma question, elle est un peu plus large sur qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Est-ce qu'il ne faut pas créer un peu de transparence, d'éthique ? Et est-ce que ces situations ne contribuent pas, quelque part, à abîmer l'image de la politique et à faire en sorte que, du coup, les Français n'y croient plus ?
Si vous voulez, moi je ne commenterai pas les perquisitions, je ne dirai pas que M. Wauquiez ou M. Doucet sont d'horribles criminels qui ont des emplois fictifs. Seule la justice pourra le déterminer. Alors, jusqu'à présent, ni Laurent Wauquiez ni M. Doucet n'ont été condamnés. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose, concernant le Rassemblement National et les affaires d'assistants, c'est pas en France, c'est-à-dire que c'est au Parlement européen, où là il y a deux jurisprudences qui s'affrontent, deux visions des choses. La vision française qui considère que l'assistant a un rôle politique, qu'il suit son député ou son élu partout sur le territoire, qu'il peut se présenter à des élections, qu'il peut aller tracter et faire du militantisme. L'autre version qui est celle du Parlement européen, c'est une vision allemande. En Allemagne, le bénévolat n'existe pas. Le principe, c'est le salariat. Et donc, selon eux, vous êtes un salarié de la Commission européenne, vous êtes un salarié de l'Union européenne, mais certainement pas en ayant une fonction politique. Donc là, c'est un affrontement de deux visions. Et nous verrons bien le résultat et quelle sera la jurisprudence.
Au-delà de la dimension judiciaire, juste en un mot, est-ce que c'est aussi quand même quelque chose qui contribue, et vous le voyez peut-être au quotidien, à ce discrédit de la politique, vous qui êtes engagé depuis très longtemps, on reviendra sur votre parcours, mais est-ce que c'est pas un peu difficile et c'est mauvais pour le débat politique, tout ça?
Moi j'ai confiance dans la justice. Quand il y a une affaire, il faut une enquête, et puis les gens, s'ils sont pas innocents, eh bien ils seront condamnés. Maintenant, moi ce que je pense dangereux aujourd'hui en politique, c'est la judiciarisation de la politique. On ne combat plus d'idée à idée, on ne combat plus de projet à projet, mais on a souvent, alors que ce soit de la part des Verts, on l'a vu à la région, ou des LR dans d'autres collectivités, cette tendance à combattre la majorité en faisant un recours soit administratif, soit au judiciaire.
Je pense que c'est assez dangereux. Le débat un peu, c'est ça que
exactement.
Vous
dites. Je pense que c'est assez dangereux. Il faut un climat serein, redonner les lettres de noblesse à la politique et débattre sereinement, de manière tout à fait transparente. Mais cette judiciarisation de la politique, je pense, est extrêmement dangereuse.
Eh bien, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on fera avec vous tout à l'heure en parlant de votre mandat régional des élections européennes. Donc, je vous dis à tout de suite pour une deuxième partie de notre émission. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours évidemment sur Lyon 1ère et toujours avec vous, Andrea Cotarac. Je rappelle que vous êtes président du groupe RN au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et un des porte-parole nationaux du RN. On a parlé avec vous de questions d'actualité. Il y a aussi une actualité dans votre mandat régional, hein, puisque c'est par période. Peut-être aussi quelques mots pour revenir sur votre parcours, parce que vous êtes à la fois encore jeune, alors je ne sais pas comment on fait le curseur, mais engagé depuis très longtemps en politique, élu à la région depuis 2015. Comment est-ce que, ma première question, on finit par s'engager? Pourquoi vous êtes engagé en politique d'ailleurs?
C'est assez spécial d'être en politique, puisqu'on s'intéresse à la vie des gens, on s'intéresse à la société. Je pense qu'être engagé, c'est tout simplement avoir des convictions, penser que la société pourrait s'améliorer, que l'homme est perfectible, et donc c'est plutôt noble et positif. Maintenant, à la région, nous sommes dans l'opposition, et on peut dire quand même que Laurent Wauquiez ne laisse pas beaucoup de place à l'opposition. Il a une manière de travailler qui est assez rude, et comme disait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, donc on imagine bien comment cette personne est.
On va en parler un petit peu plus en détail. Avant de ça, je voulais, par rapport à cet engagement politique, moi qui est toujours un sujet d'intérêt parce qu'on a besoin aujourd'hui que des gens s'engagent. Est-ce que vous avez un souvenir d'un premier moment qui vous fait basculer où vous vous dites tiens j'ai envie de faire ça? Est-ce qu'il y a souvent une grande date un peu historique où il y a quelque chose qui fait que, et puis comment vous êtes engagé au début, puisque c'est pas un secret non plus dans votre parcours, vous avez eu des évolutions voilà par rapport à un certain nombre de convictions. Comment est-ce qu'on bouge? Pourquoi est-ce qu'on bouge? Et qu'est-ce qui vous a fait bouger d'ailleurs?
Ben moi j'ai pas trop bougé finalement, puisque je pense quasiment la même chose. C'est la France insoumise avec qui j'étais qui a changé à 180 degrés, notamment sur les thématiques de laïcité, de république, de sécurité. Et on va dire que l'actualité me donne raison, puisque la France insoumise est même allée jusqu'à manifester avec des islamistes du CCIF, une organisation dissoute par le ministère de l'Intérieur. Donc moi, je suis profondément républicain. Et je me suis engagé, on va dire, sur la base de deux choses. La première chose, c'était le TCE. Vous vous souvenez, le référendum du traité pour une constitution européenne. C'était en 2005. C'est d'ailleurs le dernier référendum qui a eu lieu dans notre pays, il y a 28 ans. Donc, c'est quand même à se poser des questions sur la démocratie directe. Et les Français avaient voté non. J'étais ravi. Sauf que Nicolas Sarkozy est allé faire croire que les Français avaient voté oui. Il l'a nommé le traité de Lisbonne. Et finalement, j'étais assez choqué à Lyon 3, lors de mes études de droit, c'est que ce traité a été rejeté par le peuple français. Et pourtant, lorsque nous apprenions nos leçons de droit de l'Union européenne, eh bien, c'était en vigueur. Voilà, ce traité est en vigueur. Tant et si bien que même pendant les cours, on expliquait l'article 36 du traité de Lisbonne, ex-article 275
du TCE. Donc, il y a à la fois le fond par rapport à votre vision d'Europe, on en reparlera tout à l'heure, mais même la forme, la manière dont vous avez eu le sentiment, en fait, d'avoir été trahi quelque part.
Oui, alors le 2005, j'étais pas encore engagé en politique, c'est-à-dire que c'est le
les prémices.
C'était les prémices. Ce référendum m'a fait réfléchir sur le monde, la France, l'Union européenne, même philosophiquement et moralement, puisque ce TCE était très grand. On a eu de grands débats. C'était un grand débat démocratique, un grand moment de la démocratie dans notre pays. Et on voit que tout ça s'est terminé dans une poubelle. Et avec un Nicolas Sarkozy qui n'a pas respecté le vote des Français. Donc je pense que même profondément, on peut se poser la question de la démocratie et l'Union européenne a même fait ça avec l'Irlande, hein, c'est pas particulier à la France. L'Irlande avait voté contre le traité de Lisbonne. La Commission européenne lui a dit que c'était pas la bonne réponse, donc ils l'ont fait revoter.
Juste avant, vous parliez de la démocratie, etc., et le fait que le référendum date de 28 ans. Est-ce que pour vous, le référendum, qu'il soit d'initiative citoyenne ou plus traditionnelle, est un élément important de revitalisation du débat et de la vie démocratique? Et si oui, sur quel type de sujet vous pourriez envisager à faire un référendum?
Moi, je pense que c'est très important. Il y a des thématiques et des enjeux pour le 21e siècle. Je pense notamment à l'immigration et à l'écologie. Je pense que donner la parole aux Français pour savoir ce qu'ils veulent est extrêmement important. L'immigration, on en parle tout le temps, dans les débats télévisés, dans les réformes qui sont d'ailleurs censurées ensuite par le Conseil constitutionnel. Bon, bah, réglons cette affaire par référendum. De la même manière, l'écologie, Marine Le Pen avait proposé en 2021, c'est d'ailleurs le premier référendum qu'elle avait proposé, c'était un référendum sur l'environnement. 15 questions, 15 axes qui permettront aux Français de tracer 15 priorités et ensuite le politique doit suivre pour intégrer ces 15 axes dans les politiques publiques.
Donc c'est Donc je pense que c'est capital, très important. Alors on parlait de votre mandat régional, on va y revenir un peu dans le détail. Moi ce qui m'intéresse aussi c'est votre ancrage local. Vous avez rappelé à l'instant que vous étiez étudiant à Lyon et vous êtes conseiller régional qui est quand même pas la collectivité la plus, je vais dire, facile d'accès ou la plus proche du citoyen. Et j'avais deux types de questions par rapport à cet engagement. La première, moi qui alors m'étonne mais sans jugement aucun évidemment, qui est que on considère souvent Lyon, et il y a des débats encore très récents, comme un lieu où il y a un certain nombre de groupuscules d'ultra-droite, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, là encore je ne juge pas, qui ont parfois été dissous, contre lesquels le maire de Lyon s'est prononcé, le ministre de l'Intérieur, etc. Et en même temps, si j'ose dire, il n'y a pas ou peu, quasiment pas, d'élus du Rassemblement National. Est-ce que ce sont deux choses différentes? Est-ce que vous avez une explication sur le fait que, sauf si je commets des erreurs, et dans ces cas-là, il faut les corriger, il y a peut-être quand même des passerelles parfois dans les convictions. Qu'est-ce qui explique que ça ne se fasse pas dans l'autre sens?
D'abord, sur ces groupuscules, d'ailleurs, pour le coup, là, vous parlez des groupuscules d'extrême droite, mais pour nous, c'est la même chose, d'extrême gauche ou d'extrême droite. À partir du moment où vous avez un groupuscule qui est violent, qui a la violence comme seul moyen de s'exprimer, eh bien, ça doit être interdit ou à tout le moins, ils doivent être sanctionnés. Donc, que ce soit d'extrême gauche ou d'extrême droite. Donc, j'aimerais bien, en tout cas, j'attends avec impatience que M. Doucet puisse, par exemple, sanctionner des antifas. Les antifas empêchent le débat démocratique dans les universités. Les antifas s'attaquent à des personnes. J'estime qu'il y a là un trouble à l'ordre public et qu'ils enfreignent nos valeurs. Donc, M. Doucet doit être équilibré. Quand on est maire de tous les lieux.
C'est que la violence n'est pas un moyen d'aller vers le débat, c'est ce que vous dites. Et du coup, si on fait un mini parallèle avec ce qui se passe parfois, parce que vous l'évoquiez, et je sais que notamment le maire de Lyon a été parfois un peu chahuté là-dessus, lorsqu'il y a des jeunes militants écologistes d'Action Rébellion, par exemple, qui commettent un certain nombre de mouvements ou qui bloquent des choses, est-ce que vous pensez que c'est du même ordre ou que, si j'ose dire, l'urgence climatique peut parfois permettre de comprendre pourquoi ces jeunes s'engagent de cette manière, ou là aussi c'est pas tolérable, y compris face à une urgence comme celle-là?
Non, quelle que soit l'urgence, d'autres vous diront que l'immigration est une urgence, d'autres vous diront que la sécurité est une urgence. L'écologie est évidemment un axe très important pour nous au Rassemblement National, donc je conçois que ce soit urgent, mais on est en démocratie et on n'agit pas avec la violence. Voilà, la violence, c'est illégal. S'attaquer à des gens, c'est illégal. J'ajoute que Extinction Rébellion, je crois, sont pas forcément engagés avec une conscience libre et absolue, mais j'ai un peu l'impression que ce sont des dogmatiques quand même, qui refusent le débat. Encore une fois, je le répète, nous, on propose un référendum et donc un grand débat national sur cette thématique de l'écologie, sur les traités de libre-échange, sur les produits défectueux qu'on importe chez nous alors qu'ils sont interdits à nos agriculteurs, sur la concurrence déloyale, intra-européenne, extra-européenne. Bref, tout ça doit être discuté sereinement puisque c'est un sujet important.
Alors, et on avait commencé, parce que je vous ai un peu emmené ailleurs, mais sur cette espèce de passage ou de passerelle et de transformation, entre guillemets, à Lyon, qui est une terre particulière depuis très longtemps, où il y a peu ou pas, ou quasiment jamais, où ça remonte à très loin, d'élus identifiés comme étant soit à l'époque du Front National, soit aujourd'hui du Rassemblement National. Est-ce que vous avez une explication? Puisque on a le sentiment parfois que, entre guillemets, les idées, ce que vous défendez, et on en parlera avec les européennes, sont très présentes, et qu'en même temps, ça ne se transforme pas dans les urnes localement.
Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'était l'abstention. Je rappelle que M. Doucet a été élu avec 84% des Lyonnais qui n'ont pas voté pour lui, quand on additionne l'abstention et les autres listes. Et le deuxièmement, je pense qu'il y a eu un changement de population dans Lyon intramuros, avec une forme de gentrification. Des gens qui sont un peu plus aisés, qui ont les moyens d'habiter ici, d'acheter un appart dans Lyon, alors que d'autres, notamment des familles, quittent Lyon et sont potentiellement des électeurs du Rassemblement National. Je rappelle quand même que le RN, c'est le premier parti des salariés de France, le premier parti des employés de France, le premier parti des ouvriers de France. Donc, les forces actives sont avec nous, mais malheureusement, vous le voyez, ces forces actives, aujourd'hui, n'ont pas les moyens d'habiter dans une grande ville comme Lyon. Donc, ils votent en tout cas ceux qui ont élu Monsieur Doucet, eh bien portent aussi la responsabilité de ce qui est devenu la ville. Voilà, et moi j'ai beaucoup d'espoir pour le RN à Lyon, puisque les gens aujourd'hui sont rattrapés par la réalité. Ouais. Les profs qui votaient socialistes sont rattrapés par la réalité. Ceux qui votaient certains notables pour les LR sont rattrapés par la réalité et par l'escroquerie de ce parti qui vote des choses à Bruxelles et dit l'inverse ici. Donc je crois aujourd'hui qu'il faut, encore une fois, un débat serein pour les prochaines municipales.
Et vous pensez qu'à Lyon, en 2026, vous arriverez à mobiliser les, à Lyon, 220 et quelques personnes sur des listes? Vous imaginez que c'est un terrain possible sur lequel le Rassemblement National peut aller chercher des nouvelles voix, des nouveaux élus?
Bien sûr, le RN est quand même le parti qui a déposé le plus grand nombre de listes municipales, le plus grand nombre de candidats aux législatives. Et donc, nous n'avons aucun problème, comme nous l'avions fait la dernière fois, à présenter une liste à la fois à Lyon et à la fois à la métropole. J'ajoute que peut-être que le scrutin va changer de règle du jeu, ce qui serait plutôt favorable au RN d'avoir une forme de proportionnalité ou en tout cas un vote direct du conseil municipal.
Alors, mandat local, mandat régional, il n'y a qu'un pas. Vous êtes donc élu à la région depuis 2015, ce qui n'est pas rien. Et pourtant, c'est toujours une, comment dirais-je, collectivité assez complexe à lire dans ses décisions, dans ses compétences, dans son organisation. Pourquoi avoir fait ce choix, d'une part, et quelle est votre marge de manœuvre pour faire avancer vos idées, puisque c'est quand même ce à quoi ça sert?
Eh bien, la région, c'est quand même une collectivité très politique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une commune où on peut transcender les clivages pour tel ou tel projet local. La région, c'est quand même très politique, donc certains débats d'idées, moi ça m'intéresse, avec du concret pour les citoyens maintenant. Et vous l'avez dit d'ailleurs, je suis parfaitement d'accord avec vous, la région, c'est un mandat qui est éloigné du peuple. C'est un fait. Les socialistes au pouvoir, avec François Hollande, ont fusionné les régions, ils ont fait des métropolisations, ils ont accentué les EPCI, donc les intercommunalités. Et finalement, le pouvoir et les centres de décision se sont éloignés des territoires. Et je pense que c'est assez grave. Et il est temps que le politique puisse revenir à une forme de proximité, au plus proche du citoyen, parce que sinon, on va avoir encore des abstentions, comme c'était le cas d'ailleurs en 2021, avec des abstentions absolument dramatiques.
Alors, au-delà des considérations plus politiques nationales, dont on parlera après, puisque le président de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, ça n'aura échappé à personne, est Laurent Wauquiez, et qu'il a des velléités nationales, c'est une collectivité qui a des compétences, ceci étant très importantes, et des moyens financiers considérables sur les enjeux de tourisme, de développement économique, de formation professionnelle et de mobilité. Qu'est-ce que vous dénoncez, ou qu'est-ce qui ne va pas dans la politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans notre région par rapport à un certain nombre de sujets? Je ne sais pas si vous en avez en particulier qui vous viennent en tête. J'ai cru voir que vous étiez notamment assez circonspect sur les mobilités dans la région, ce genre de choses. Comment est-ce que vous adressez en tant qu'opposant sur ces grandes thématiques?
Je pense qu'il faut arrêter avec la politique communication. Laurent Wauquiez est fort en communication, c'est un fait. On peut le dire très tranquillement. Mais il y a beaucoup trop de communication par rapport à la réalité des dossiers qui sont votés. Je prends l'exemple de la sécurité. Une commission sécurité existe. Laurent Wauquiez en fait des tonnes et des tonnes en matière de communication sur le sujet. Bon, la sécurité, c'est pas censé être une thématique et une compétence de la région, par exemple. Vous avez des rapports qui sont... on change simplement le titre et le nom, et Laurent Wauquiez vous expliquera que c'est un plan Marshall, alors qu'en fait, rien ne change. Laurent Wauquiez explique que la région, c'est la mieux financée, la mieux gérée de France, etc. Ce qui est absolument faux, c'est du pipeau. Je pense qu'il faut arrêter avec ces concurrences entre collectivités. Ces petits barons qui ont une seule pensée et un seul objectif, c'est de dire à Xavier Bertrand, c'est le cas de Monsieur Wauquiez, que Monsieur Wauquiez est meilleur que Xavier Bertrand, meilleur que Valérie Pécresse. Stop. On fait l'intérêt général et on agit sincèrement pour les habitants, ce qui n'est pas forcément le cas de Laurent Wauquiez.
Alors justement, sur le concret et le quotidien des habitants, il est clair que les mobilités, les TER, les transports, tout ça, ça fait le quotidien de plein de gens qui souffrent et de retard et de dysfonctionnement. Et on sait que la région est opérateur de transport. Alors, elle n'est pas la seule responsable, mais c'est un vrai sujet quand on est dans des enjeux de transition écologique. Et par ailleurs, donc sur les transports, et puis par ailleurs, moi j'ai le sentiment d'avoir entendu Laurent Wauquiez qui disait souvent « bah voilà, je suis la région qui relocalise ». Or, relocalisation, c'est fabriquer français. La relocalisation, c'est aussi la défense des territoires, de la montagne, de la ruralité. Hein, il est un de ceux qui est le premier à essayer, alors je crois qu'il a un peu bougé, sur le ZAN, notamment le zéro artificialisation nette, de revenir en arrière, ce qui était une manière de protéger les terroirs et les territoires. Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y a des choses qui sont compatibles avec ce que vous proposez?
Mais c'est très bien, il y a beaucoup de gens en ce moment dans la classe politique qui font leurs courses dans notre programme. Et je crois que Laurent Wauquiez a fait ses courses dans notre programme, et c'est très bien, la bataille culturelle, il y a une forme de marinisation des esprits aujourd'hui. Laurent Wauquiez, à l'époque, avec les LR, avait voté pour l'ensemble des traités de libre-échange, par exemple, avec le Canada, avec les États-Unis. Les LR étaient vraiment les avocats des traités de libre-échange qui ont asphyxié nos agriculteurs. Je constate aujourd'hui qu'il change un petit peu, qu'il admet ses erreurs. Le problème, c'est que son parti, les LR, continue de voter les traités de libre-échange à l'échelle européenne. Donc c'est bien de jouer aux pompiers comme il le fait à l'échelon local, mais dans le même temps, ce sont des pyromanes à l'échelle européenne. Donc il y a une forme de contradiction chez les LR à chaque fois, où au niveau local, ils sont plutôt, en tout cas ils vont dans d'autres sens, pour le localisme, pour la non-artificialisation, enfin contre la ZAN.
Pas facile à dire.
C'est pas facile à dire. Mais je crois, et je en termine là-dessus, que sur la thématique de l'écologie, il n'y a plus de débat, la bataille culturelle est gagnée, 80% des Européens sont pour une action pour le climat, mais aujourd'hui, la vraie bataille, c'est sur les modalités d'action. En deux mots, les ZFE, zones à faible émission, deviennent des zones à forte exclusion, avec toujours les mêmes qui sont sanctionnés, les ruraux, les artisans, le périurbain. Quand vous regardez les éoliennes, je suis allé en visiter dans le nord du Rhône, à la frontière avec la Bourgogne, c'est toujours les mêmes aussi. Ces éoliennes ne sont pas dans l'arrondissement de M. Attal et de Mme Dati. Quand vous prenez la non-artificialisation des sols, c'est pareil. C'est le monde rural qui est pénalisé. Donc, voilà. La question aujourd'hui, c'est si l'écologie est une contrainte, sur qui doit-elle peser? Et manifestement, c'est toujours sur les mêmes, les ruraux et les plus modestes.
Eh bien, on en reparlera. Et on parlera évidemment des européennes dans une troisième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours sur Lyon 1ère évidemment, et toujours avec vous, Andrea Cotarac. Je rappelle que vous êtes président du groupe RN au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, et par ailleurs, un des porte-parole nationaux du RN. C'est d'ailleurs peut-être une de mes premières questions avant qu'on rentre dans le détail de ces élections à venir. Quel est votre rôle comme porte-parole national? Je veux dire, l'âge n'attend pas la valeur, n'attend pas le nombre des années. Vous êtes assez jeune. Est-ce que c'est pas une grosse responsabilité? Est-ce que vous avez hésité avant d'accepter de porter comme ça la parole d'un parti au niveau national?
J'ai pas hésité. C'est Jordan Bardella qui m'a nommé porte-parole. Donc, c'était à la fois une lourde charge et en même temps un honneur pour moi qu'il pense à moi pour porter la parole. Porter la parole, c'est aller sur les plateaux de télévision, aller à la radio pour, dans le cadre de l'actualité, certes, mais aussi dans le cadre de certains débats un peu plus intellectuels. Moi qui me plaise un peu plus que l'actualité rapide et les chaînes d'information. France Culture, enfin certains de vos confrères, voilà. C'est beaucoup de travail. Voilà. C'est beaucoup de travail. Je ne vais jamais sur une émission sans avoir travaillé, potassé le sujet. Ça m'évite de dire des bêtises. Et,
ça peut arriver, mais...
Et c'est un respect pour les auditeurs, puisque quand on va à la télévision ou à la radio...
Et puis vous incarnez
quand
même...
On parle à des gens, quoi.
Vous incarnez aussi votre parti et un certain nombre d'électeurs. Alors, à cet égard, je me suis permis de parler de votre âge, mais... Jordan Bardella a pas 30 ans, vous avez un peu plus de 30 ans, le Premier ministre a 34 ans. Est-ce que l'âge dans la politique, tout d'un coup, est devenu une sorte de sujet? Est-ce que c'est un changement? Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que ce n'est pas un sujet en soi? Enfin, est-ce que ça change quelque chose à la manière de faire de la politique et à l'avenir de la politique?
Sur la manière, peut-être. Je pense à certains réseaux sociaux que peut-être certains boomers qui sont politiques n'utiliseront peut-être pas, et encore. Mais moi, je ne fais jamais de différence selon l'âge. Gérard Collomb était plutôt âgé à la fin de son dernier mandat. Mais ça n'empêche, c'est quelqu'un qui avait des valeurs, c'est quelqu'un qui savait où il allait, qui avait un projet. Et ma foi, eh bien, on pouvait opposer nos idées et nos projets. Jordan Bardella est très jeune, c'est quelqu'un d'assez talentueux, qui va à nouveau mener notre liste pour les élections européennes, qui est président même du Rassemblement National. Il est très jeune, c'est un talent, c'est indéniable, mais il a aussi une force de conviction et il a changé un petit peu le parti voilà, sur différents domaines, peut-être par son, grâce à son âge, voilà, une forme de participation, l'école des cadres, s'instruire, discuter, et pas simplement aller coller des affiches.
Alors, ce qui est intéressant dans cette notion de renouvellement, et j'entends bien qu'effectivement, c'est pas forcément le seul critère, c'est que ça raconte aussi un monde qui va très très vite, une société qui se lasse et qui zappe. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi, puisque vous connaissez évidemment très bien ces deux personnalités, la relation qui s'est créée entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. C'est-à-dire que, évidemment, il y a encore quelques années, Marine Le Pen était la figure incontournable du Rassemblement National. C'est elle qui a proposé que Jordan Bardella devienne président. Elle veut en faire, si elle gagne les élections, son premier ministre. Est-ce que, j'allais dire, la personnalité de Jordan Bardella a pris un peu plus de place que ce qui était prévu? Et est-ce que c'est une bonne chose, après tout, qu'il prenne autant la lumière?
Ben, c'est très bien. Je veux dire, Marine Le Pen a ce talent de donner des opportunités aux uns et aux autres. Elle a donné une opportunité à Jordan Bardella qui l'a parfaitement rempli. C'était les élections européennes de 2019. Et Marine Le Pen n'hésite pas à déléguer, n'hésite pas à proposer à telle ou telle personne certaines missions de réflexion. Donc c'est quelqu'un qui a une vision, on va dire, globale. C'est le chef d'orchestre, Marine Le Pen. Et ma foi, ça marche, ça fonctionne. Vous avez vu que lors du dernier congrès, c'est la première fois qu'il y avait deux personnes qui s'opposaient, Louis Alliot et Jordan Bardella. Et vous avez vu là encore que, contrairement aux autres partis, tout s'est bien déroulé. Aucune attaque, aucune affaire, aucune... C'était un débat d'idées et ça a été respecté. Et nous sommes dans la même famille politique et donc nous sommes tous allés de l'avant. C'était pas vraiment le cas pour les socialistes, c'était pas vraiment le cas pour les LR. Et d'ailleurs tous les autres, puisque les primaires ou ce genre d'exercice ne sont que rarement respectés.
Alors on va rentrer un peu dans le concret des élections européennes. On sait que aujourd'hui le Rassemblement National a une très large avance dans les sondages, hein, qui n'a jamais été aussi importante d'ailleurs, et avec une dynamique qui va plutôt dans le sens d'une progression. Un certain nombre de vos détracteurs vous accusent d'avoir, entre guillemets, hein, bâti cette avance sur du vent ou sur des illusions, et de ne parler jamais du fond, de ne pas vous intéresser à l'Europe, mais de mettre des enjeux, je veux dire, de politique nationale, d'immigration, ce genre de choses, là où en fait ça n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce que vous répondez à ces détracteurs ?
Ils sont amusants, ces détracteurs, parce que moi j'ai travaillé, vous savez, au Parlement européen pendant 3 ans et demi, et ces personnes s'attaquent à Jordan Bardella, par exemple, en expliquant qu'il n'a jamais eu la charge d'un rapport, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été rapporteur. Mais il faut savoir qu'en commission, ces mêmes personnes qui nous accusent se ligue avec tous les autres partis pour éviter de nous donner un rapport. C'est-à-dire que ces gens-là s'allient avec les LR, avec tous les autres partis, pour empêcher notre parti, le Rassemblement National, d'avoir un rapport. Donc c'est assez fort de café, j'ai envie de dire, de voir ces personnes qui à la fois nous empêchent d'être rapporteurs au Parlement européen et puis ensuite qui viennent nous expliquer que nous n'avons pas eu de rapport. Bon, pour le reste, je crois que le Rassemblement National, aujourd'hui, c'est le moteur d'idées de la classe politique française. C'est la turbine à Ravel. Je vais prendre 2-3 exemples, mais nous avons défendu le fait que le carburant et l'énergie étaient un bien de première nécessité et qu'il fallait baisser justement la TVA de 20 à 5,5. Je constate, il y a 3 semaines, que Monsieur Roussel, parti communiste, a une idée géniale, celle de baisser la taxe sur le carburant de 20 à 5,5, c'est-à-dire exactement ce qu'on propose depuis 3 ans. Vous avez Monsieur Ruffin, là encore quelqu'un de gauche, qui dit, puisque un Français sur 5 saute des repas pour des raisons financières, je propose, dit-il, la TVA à 0% sur 100 produits de première nécessité. Très bien, il a 3 ans de retard, puisque là aussi c'est une idée qui émane du Rassemblement National. Vous prenez l'immigration, je constate que les LR recopient tout simplement notre programme. Ils proposent un référendum sur l'immigration, ce qu'ils ont toujours refusé de faire. Je me souviens, je finis là-dessus, de Monsieur Larcher, le président du Sénat, qui est LR, et c'est encore sur leur site d'ailleurs internet, vous pouvez aller vérifier. Il donne une interview le soir du premier tour et il dit j'irai voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen souhaite faire un référendum sur l'immigration et disait-il à l'époque que c'était un coup d'État de faire un référendum sur l'immigration. Donc vous voyez, les LR sont hypocrites. Ils changent d'avis comme de chemise. D'ailleurs, je pense qu'ils ont cloué leur dernier clou sur leur cercueil.
Alors, par rapport à ça, justement, à ces détracteurs, je poursuis un certain nombre d'autres, et parfois même dans des médias, disent que le Rassemblement national n'a pas de bilan au Parlement européen et qu'on ne trouve pas de traces réelles, concrètes et efficaces de choses qui ont fait évoluer les choses. Est-ce que c'est du même ordre pour vous ou est-ce que là encore, il y a un bilan qui est racontable et entendable?
Mais en fait, les macronistes sont assez, intrigants parce qu'ils inventent des choses. C'est-à-dire qu'à la fois, ce sont des mitraillettes à fake news quand ils expliquent que nous serions la courroie de transmission du Kremlin, etc. Une commission d'enquête parlementaire dit l'exact inverse. Aucun parti politique français n'est soumis à une quelconque ingérence, RN compris. Deuxièmement, ils disent, mais le RN n'a pas de bilan. Excusez-moi, un bilan, c'est des gens qui sont au pouvoir. Qui est au pouvoir aujourd'hui? Qui sont les amis de Mme von der Leyen, qui a la majorité au Parlement européen? C'est à la fois Emmanuel Macron et à la fois les amis de M. Wauquiez de LR, puisque Mme von der Leyen est du même parti politique européen que M. Wauquiez et est soutenu par Emmanuel Macron. Et je constate, sur ce point-là, qu'à part être insultant, à part inventer des choses comme nous devrions défendre un bilan, je constate qu'eux ne le défendent pas. Je n'ai pas entendu la tête de liste d'En Marche nous expliquer ce qu'elle voulait pour l'Europe, ne serait-ce qu'une seule proposition. Alors, le RN est responsable des problèmes d'immigration, le RN est responsable de la guerre en Ukraine, le RSP... on peut débattre sereinement, c'est l'attitude du Rassemblement National, mais là, je constate que chez Renaissance, il y a un vrai problème.
Alors, un petit mot justement sur le débat, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous êtes le premier à dire qu'il faut mettre en place des lieux de confrontation d'idées. J'ai le souvenir d'avoir vu passer que bientôt allait avoir lieu un ou deux débats à la télévision, je crois sur une chaîne d'information continue, et j'ai cru comprendre que Jordan Bardella ne serait pas présent à ce débat. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que ça, il y a une explication?
Alors, j'ai pas envie de vous dire de bêtises parce que
je crois que c'était sur BFM quelque chose qui est organisé bientôt.
Sur Public Sénat.
Public Sénat. Voilà.
Et bon, peut-être que vous me corrigerez. C'est sur Public Sénat. Et que c'est Thierry Mariani qui va représenter les couleurs du RN.
D'accord.
Alors, probablement pour un problème d'agenda, je pense. J'ai peur de vous dire des bêtises.
En gros,
Jordan Bardella n'a pas peur de débat. Il les a tous faits. D'ailleurs, c'est lui qui propose un débat à M. Attal. C'est M. Attal qui refuse. Donc, nous, on est toujours ouverts au débat.
Très bien. Dernière question sur l'Europe, avant qu'on passe à des choses un peu plus légères, etc., sur vous et puis vos goûts, votre actualité éventuellement. Vous avez dit, en quelques mots, que pour vous, l'Europe, c'était un non-sens écologique, social et identitaire. Est-ce que vous pourriez développer ce que vous voulez dire par là?
Jordan Bardella a lancé sa stratégie, ça s'appelle la stratégie tricolore. Ça veut dire que nous avons notre propre vision de l'Europe. D'ailleurs, on commence à être majoritaire, puisque c'est la même que certains de nos partenaires qui dirigent certains pays aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Mais stratégie tricolore, c'est quoi? Vous savez que le RN n'est plus pour le Frexit depuis longtemps, donc là aussi, fake news d'En Marche. Mais vaut mieux le préciser. Donc, la stratégie tricolore, c'est quoi? C'est que il y a des dossiers. Nous sommes parfaitement d'accord pour que ça continue à l'échelon européen. Je pense par exemple à Erasmus. On n'a aucun problème avec ça. Je pense par exemple au programme aérospatiaux. Aucun problème avec ça. Il y a des dossiers où nous sommes d'accord, mais avec certaines conditions. Je prends, pour aller vite, Schengen. Nous sommes favorables à Schengen, favorables à la libre circulation des personnes, mais uniquement des ressortissants des pays de l'Union européenne. Pas des personnes qui ont eu le droit d'asile, je ne sais où, puis qui viennent chez nous. Donc juste pour les ressortissants. Et enfin, il y a des lignes rouges. Les lignes rouges, c'est que l'Union européenne, en ce moment, accélère son calendrier prend vol des compétences qui sont des compétences régaliennes. Donc nous allons dire, là, lors des débats aux élections européennes, que la diplomatie, ça reste à l'État. Que l'armée, ça reste à l'État. Que la dissuasion nucléaire, il faudrait l'inscrire dans la Constitution française parce que c'est uniquement pour la France. Que le siège au Conseil de sécurité du pays, ça reste à la France et que Mme von der Leyen n'a pas été élue et qu'elle n'est pas légitime pour entreprendre, en tout cas voler, les compétences régaliennes des États membres.
C'est clair. Alors, on parlait de votre mission de porte-parole nationale avec un certain nombre de vos collègues qui étaient très prenantes à la fois, j'imagine, physiquement et psychiquement, parce que c'est une responsabilité. La question que j'adresse souvent à mes invités quand j'arrive à la fin, c'est de dire en quelques mots, est-ce qu'on peut faire autre chose à un moment quand on est un homme politique engagé? Autre chose que de la politique, est-ce que vous avez une passion, un hobby, un truc qui vous permet de vous faire un pas de côté?
Moi,
ou ça n'existe pas?
Honnêtement, alors je parle comme ça, je fais mon malin, mais honnêtement, je pense que, bien évidemment, qu'on peut faire autre chose que de la politique. Moi, j'aurais très bien pu être avocat, puisque j'ai suivi ces études-là. Bon, la politique m'a emmené. J'adore les voyages, j'adore écrire, j'adore lire. Bien sûr qu'on peut faire autre chose que de la politique. En tout cas, j'espère que la politique...
C'est pas un métier, c'est ça, pour vous ?
Pour moi, alors il faut quand même travailler à fond, etc. Mais pour moi, un mandat, c'est un mandat du peuple. On occupe un mandat, on porte la parole de ceux qui n'en ont pas pour faire avancer certains projets, certaines idées. Mais
ça vous appartient pas.
Bah, c'est un CDD. La politique, c'est un CDD, c'est aucunement un CDI. Et je crois d'ailleurs à Lyon, notamment sous l'ère Colomb, que beaucoup de socialistes pensaient que c'était un CDI. Voilà.
Alors, vous avez dit que vous travaillez beaucoup. Je suppose que sur votre table de chevet, il y a de nombreux ouvrages. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a marqué ou dont vous voulez nous parler en quelques instants?
Alors, oui, le livre que j'ai à mon chevet, alors j'ai oublié le nom, mais c'est un aventurier français dans les années 50 qui avait exploré la Guyane et qui n'a jamais été retrouvé. Donc il a disparu, son père l'avait cherché, et c'est un Indien qui avait retrouvé ses notes. Et donc c'est ce que je suis en train de lire. Il est connu, mais je me souviens plus le nom.
On retrouvera.
C'est dans les années 50 et c'est absolument fabuleux.
La Guyane, d'ailleurs, qui est un territoire français où il y a un certain nombre de sujets compliqués qui feraient... on aurait pu parler de ces territoires peut-être parfois un peu délaissés par la métropole. On va se quitter aussi, comme c'est la tradition, en musique. Est-ce que vous avez quelque chose que vous écoutez en boucle dans votre playlist ou un titre que vous avez envie de partager avec nous?
Pas trop, mais je vais être provocateur. Puisqu'il y a du soleil, on va écouter Dalida.
Très bien. Ok, pour finir un peu en musique et en légèreté. Merci beaucoup d'avoir été présent à notre micro.
Merci à vous. Et
bon travail régional, comme dirait Yves Calvi. J'adore cette formule, je ne sais pas pourquoi ça lui prend comme ça. Merci à vous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité qui sera Sarah Tanzili, la députée du Rhône, du 3e députée Renaissance. Merci, bonne journée,
merci,
au revoir.
Merci beaucoup.
C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et lyonpositif.fr. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+.
Lyon Première.